Bonsoir. La société de transport au Congo Transco en difficulté de fonctionnement. Le directeur sortant de cette entreprise tire la sonnette d'alarme sur la gestion de cette société. Il s'agit notamment des décaissements de fonds et l'octroi des marchés publics sans appel d'offres publiques. Dominique Motion affirme que si l'on y prend garde, cette situation risque de conduire Transco à la faillite. Comment analyser cette situation? Pour en parler, je reçois comme invité Richard Mukwala, conseiller chargé du transport routier et urbain au ministère des Transports. Monsieur le conseiller, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue Marie Bakoumania, directeur de la rédaction en charge de l'économie et de l'investigation au groupe de presse Mediaset. Bonsoir, M. Bakoumania.
Bonsoir, cher confrère.
Blaise Kouseka, expert en démocratie économique. Bonsoir, M. Kouseka. Merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La société de transport au Congo Transco en sigle connaît des difficultés de fonctionnement liées à sa gestion. Plus de détails dans cet entretien d'Innocent Olenga et Berry Franklin Luchaka.
Innocent Olenga, bonsoir.
Bonsoir Berry.
Alors vous suivez depuis longtemps la situation qui prévaut au niveau de Transco. Comment le directeur sortant Dominique Motion a-t-il décrit la situation de son entreprise?
Au regard de la note technique écrite par Dominique Motion, il tire une sorte de sonnette d'alarme sur la gestion technique des bus et la gestion financière de l'entreprise qui, si on y prend garde, risque d'après lui de conduire l'entreprise à la faillite.
Du point de vue technique, qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui?
Retenez d'abord que sur les 500 bus dont dispose Transco, 350 sont mis en exploitation, mais déjà 16 sont immobilisés par manque de pièces de rechange, tout simplement parce qu'il n'y a pas un stock de pièces de rechange de sécurité.
Mais on sait aussi que le gouvernement subventionne Transco.
Oui, mais c'est seulement en carburant et lubrifiant. Ce n'est pas le cas pour les fonctionnements, l'amortissement et l'investissement. Or, les prix sociaux de 500 francs congolais fixés par course ne peuvent nullement supporter les charges de l'entreprise. Il faut un stock de pièces de rechange, etc.
Quel est alors le problème au niveau financier?
Oui, dans ce secteur, ce sont les décaissements des fonds en violation de la sécurité bancaire, octroi des marchés sans appel d'offres publiques, écart entre consommation réelle des carburants et la somme versée à la société pétrolière Kobil qui sont décriés. S'agissant des décaissements des fonds, par exemple Berry, Michel Kirumba, directeur intérimaire des Transco, a écrit depuis le 2 octobre dernier à la Rohbank pour signifier à cette banque que sa seule signature est valable pour sortir les fonds. Alors que du temps de M. Motion, il fallait au moins 3 signatures en guise de sécurité bancaire. M. Kirumba fait des paiements cash de plus de 10 000 $ alors qu'à Transco, le plafond est à 300 $ pour ce genre de paiements. Au-delà de 300 $, il faut un chèque ou un virement bancaire. Il octroie des marchés de nettoyage des véhicules sans passer par un appel d'offres. Et l'accusé, nous, on l'a contacté, il a reconnu tous ses greffes, mais il a déclaré avoir agi ainsi pour raison d'urgence et de souplesse administrative.
Et aussi, vous avez parlé des écarts entre subventions allouées et la consommation.
Oui, Berry, d'après Dominique Motion, pour 2013 par exemple, les montants alloués chaque mois par les gouvernements congolais à Kobil étaient de 900 000 $ alors que la consommation de Transco n'était que de 300 000 $. Et il ne comprend pas où sont parties toutes les différences.
Et quelle est la réaction au niveau alors de Kobil?
Les responsables de Kobil, contactés par Radio Capi, expliquent que cette subvention est tout simplement théorique.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Bon, là, concrètement, écoutez Georges Mukuna, administrateur directeur adjoint de Kobil.
Lorsque nous disons que la subvention est théorique, c'est que ces 900 000, il fallait donc le mettre dans la structure de prix de carburant. Ce n'est pas un montant qui est libéré par quelqu'un. Non, ce montant, c'est en fonction et des carburants vendus ce mois-là. C'est ça, on peut déjà, par exemple, vous dire que le système, depuis qu'il avait été mis en place, a généré à peu près 8 millions de dollars. Ça, c'est le montant attendu, mais ce qui est réellement reversé, reçu de ce montant, c'est la moitié, qui représente un peu moins de 4 millions de dollars. Le reste se retrouve encore dans le système en recouvrement. Et nous ne facturons que ce que Transco a consommé, pas autre chose.
En d'autres termes, Berry, puisqu'il y a toujours décalage entre les prévisionnels, par exemple c'est 8 millions, et les recouvrements qui jusque-là ne représentent que 4 millions, cela occasionne l'accumulation des factures de Kobil, l'explication qu'on nous a donnée.
Ok, merci beaucoup Innocent pour toutes ces explications.
Merci Berry.
Monsieur le conseiller Richard Mukwala, vous êtes conseiller chargé du transport routier et urbain au ministère des Transports. Comment vous expliquez que la société Transco connaisse déjà des problèmes de gestion presque une année après son lancement?
Merci beaucoup. Moi, je pense que vous avez parlé de Dominique Motion, qui est le DG sortant, qui a fait une note technique pour faire le diagnostic de cet établissement. J'aimerais ici préciser que la démarche d'abord de M. Dominique Motion, c'est une démarche solitaire. Cela signifie que Dominique Motion, qui a fait son diagnostic, devrait le faire dans le cadre de la coopération, du projet. Et ici, j'aimerais recadrer les choses. Lorsque le gouvernement a pris contact avec la RATP, qui est une structure bien organisée, n'a pas pris des engagements avec des individus. Cela suppose que M. Dominique Motion, toujours ça a été comme ça, dans le cadre de la collaboration, c'est la RATP qui fait rapport au gouvernement sur la gestion de ces experts qu'il a envoyés pour aider la République. Mais vous comprendrez avec moi que Dominique Motion, qui était en train de partir sur base d'un contrat signé, qui était d'une année, et que le gouvernement devrait, à ce moment-là, après une année, évaluer les contrats, les activités menées par ces experts. Au sortir de cet établissement, Dominique Motion dresse un rapport que je qualifie qui est solitaire parce que la RATP internationale, dont le chef du projet, M. Ossa, a même présenté des excuses au ministère.
Alors, la démarche est solitaire, mais par rapport au fond, est-ce qu'il n'est pas vrai?
Je voudrais en arriver. Là, allez-y. D'abord, vous êtes de la presse. Nous devons faire la lecture des choses, une critique. Lorsqu'il a fait une année, il n'avait jamais dressé ses rapports. Parce que c'est lui le gestionnaire. Ses rapports, il les dresse lorsque son mandat prend fin. Je dis bien son mandat. Prend fin conformément au contrat qui a été signé avec la RATP. Donc, tous les faits dénoncés, comme vous l'avez dit par Dominique Motion, j'aimerais ici d'ailleurs venir en appui, sinon appuyer notre ami de Kobil, qui est partenaire. Les opérations qui se font dans le cadre de carburant, donc lubrifiant et carburant qu'on alloue à Transco, se fait de manière, ce que nous appelons, en réalité, très clair et avec Transco lui-même, avec tous les partenaires. Ici, avec moi, j'ai d'ailleurs les tableaux qui retracent comment ces carburants ont été décaissés. C'est vrai, les 900 000 dollars dont il fait allusion, c'est théorique. Ce n'est pas l'argent qu'on donne chaque mois. Transco fait son rapport de consommation. Ce rapport est signé par Transco. Et Kobil le signe dans le cadre de ce que nous appelons stock de sécurité. On décaisse sur base de la consommation réellement déclaré par Transco.
Et alors, pourquoi avoir placé cette barre théorique de 900 000 dollars?
Oui, mais c'est en prévision des bis qu'on devrait acquérir. Regardez, lorsque vous créez une entreprise, vous devez au préalable dire, par exemple, nous aurons 500 bis dans une année. Vous faites des prévisions pour ces 500 bis. Vous dites les 500 bis, par exemple, nous pourrons, ce n'est pas réel, hein, on dit, on peut, la consommation en carburant peut aller, par exemple, 800 000 dollars. Mais, vous l'avez dit, il y a 350 bis. Nous avons commencé avec 200 bis. Lorsque vous faites des calculs, vous vous rendrez compte que cette prévision qui est théorique ne peut nullement entamer toutes les prévisions prévues.
Alors, entre-temps, sur les 350 bus en circulation, il y a déjà 16 qui sont immobilisés, faute de pièces et tout ça. Comment vous expliquez ça, alors que vous avez fait des prévisions?
Nous disons en carburant, les prévisions, ce n'est pas pour réparer les bus. Là, je suis en
train... Mais quand on fait aussi une entreprise, on prévoit des pièces, tout ce qu'il faut en matière de pièces, en termes de pneus de rechange et compagnie. Il ne faut pas seulement le faire pour le carburant, monsieur le conseiller.
Mais je pense que vous qui l'avez reçu, vous avez reçu son rapport, vous devriez lui poser la question. parce que c'est lui le gestionnaire. Le gouvernement a mis à leur disposition un outil. Le gouvernement, en mettant cet outil, le gouvernement avait commandé les pièces pour le démarrage qui ont accompagné la commande ou les commandes du gouvernement. Mais lorsque le gouvernement commande le véhicule, met à votre disposition les pièces de rechange, cela suppose que lui, Dominique Motion, qui aujourd'hui dresse un rapport, devrait aussi prévoir pour les pièces d'usure courante.
Alors avant qu'on aille un peu plus loin, monsieur le conseiller, donc en d'autres termes, à vous bien vous comprendre, la procédure utilisée par Dominique Motion n'est pas bonne, mais les faits sont corrects.
Moi, je ne dis pas que les faits sont corrects, je suis en train de vous démontrer que les faits ne sont pas corrects. J'ai commencé par les carburants dont vous avez fait allusion. Je vous ai dit que ces carburants, j'ai les tableaux avec moi.
Voilà.
C'est alors... le gouvernement d'ailleurs qui doit encore à Kobyle. Donc le paiement ne se fait pas automatiquement par moi.
Alors, on parle de, dans ce rapport, il est question aussi des problèmes financiers, des décaissements, des marchés publics sans offre. Qu'est-ce que vous en pensez?
Marché public sans offre, vous le dites, et vous posez la question au ministère, qui est la tutelle, de vous éclairer par rapport au marché. Mais c'est une démarche déjà biaisée, parce que la gestion quotidienne des transports, ce n'est pas le ministère qui l'assure.
Qui a quand même
ce
la
sont
tutelle.
Les gestionnaires qui le font. La tutelle, lorsqu'il y a un problème, la tutelle intervient. La tutelle émet un point de vue. Lorsque vous faites allusion d'un marché qui a été attribué, lorsque vous faites allusion du décaissement, mais lorsqu'on décaisse les moyens et que le ministère n'est pas informé, comment le ministère doit savoir qu'on a décaissé l'argent?
Bienvenue Marie Bakoumania, comment vous analysez cette situation?
Ben écoutez, Transco a suscité énormément d'espoir dans la population. Moi, je peux vous dire que personnellement, je n'emprunte plus que les bus Transco pour aller au service et même pour effectuer mes courses. Je recommande à mes enfants de prendre le transport de Transco pour aller à l'école. Ça va créer un engouement tel que nous avions salué. Mais ce qui se passe, c'est à ne rien comprendre. Et à ne rien comprendre d'autant plus que le contrat lit Transco à la firme française RATP. Ce qui est quand même bizarre, aujourd'hui, le débat se focalise entre la personne désignée par RATP et le gouvernement. C'est ce que nous ne comprenons pas, nous qui regardons de l'extérieur. Après une année, parce qu'il faut dire aussi que la RATP est arrivée, après une première gestion, il y a eu un premier gestionnaire, puis la RATP a dépêché une équipe qui travaille sur Transco depuis quelques temps, et l'échéance d'une année est arrivée. À mon sens, je pense que on aurait dû procéder par un audit avant que on arrive à la fin de la gestion de celui qui est parti, M. Motion, comme ça qu'il s'appelle si je ne me trompe pas. On aurait dû commencer par effectuer un audit. J'ai comme l'impression que cet audit n'a pas été diligenté et que aujourd'hui la RATP, et c'est pourquoi est-ce que la RATP n'a pas remplacé M. Motion par une autre personne, et la polémique, cette polémique n'a pas commencé qu'après le départ de M. Motion. Moi je me souviens, en tant que reporter, je m'étais rendu à Transco lors d'une cérémonie, et on sentait qu'il y avait un malaise qui prenait forme au sein des Transco.
Déjà au début.
Déjà, il y a de cela quelques trois mois. J'étais sur place et là, lorsqu'on arrive, on met des investigations, on parle de cette affaire des carburants qui n'arriverait pas totalement à destination. On a quelques explications du conseiller, des explications qui, en mon sens, sont de nature à éclairer l'opinion. Ça ne valait même pas la peine d'en faire un mystère pour, en attendant que ce type fasse, M. Motion fasse son rapport pour qu'on puisse les rendre par après publics. Je pose également le problème du coût. Moi, je pense qu'il faut pratiquer la vérité des prix. Dans les 500 francs, la course qui est pratiquée sur les bus Transco, et là, c'est pour permettre à ce que l'exploitation soit efficiente, le gouvernement retire 80 francs congolais de TVA. C'est aussi une manière de sevrer cette entreprise déjà qui éprouve des difficultés dès son lancement, de la sevrer de moyens, hein, de son bon fonctionnement. Tout cela mis ensemble, on peut bien se poser la question de savoir si la RATP n'a pas donné satisfaction au gouvernement, et si elle n'a pas donné satisfaction, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, au point que le mandaté qui a été désigné dresse un rapport qu'il rend public de manière solitaire, le conseiller l'a dit, alors que de manière contractuelle, il y avait des comportements qu'on ne pouvait pas tolérer. Pourquoi est-ce que ça se passe aujourd'hui, hein, après que ces gestionnaires, ces mandataires soient partis et il ait achevé le temps d'une année qui devait passer ici. Donc je pense que l'interpellation, elle est beaucoup plus en direction du gouvernement, parce que le mandataire, ce n'est pas nous qui l'avions choisi. C'est le gouvernement qui l'a choisi, c'est le gouvernement qui a signé le contrat avec le mandataire. Nous, en tant qu'usagers, nous attendons à voir le service se pérenniser. Hein, même la nomination aujourd'hui d'un DG, je crois, un DG intérimaire, alors qu'avant, il y avait tout un comité, un DG intérimaire, je pense que sur le plan de la gestion, ça pose problème. C'est un individu, il n'a pas toujours le contrôle qui vient le suivre dans ses actes quotidiens.
Alors, il y a des problèmes techniques que cette note de Dominique Motion évoque dans cette note. Bienvenue, Marie Bakoumania. Des problèmes techniques, on a parlé déjà des 16 bus immobilisés faute de pièces, il y a des problèmes financiers, de l'argent qui sort sans contrôle, c'est un seul individu qui signe, beaucoup d'autres problèmes. Cela ne peut-il pas amener l'opinion à s'inquiéter?
Ah ben oui, justement, moi, en tant qu'usager, moi-même, je m'inquiète déjà. Je m'inquiète déjà quand j'apprenais qu'il y avait des problèmes de direction, de management à Transco, alors que on pouvait programmer, prendre un bus à des heures, à des minutes bien fixées, vous pointez à l'arrêt et vous avez votre moyen de transport. Ça pose réellement problème. Parce que là, on est déjà plongé dans l'incertitude. Ça nous rappelle OTCZ, ça nous rappelle Cititrain, ça nous rappelle Sotraz. Ça a commencé ainsi. C'est comme si nous, Congolais, on ne tire pas les leçons de notre histoire récente. Une initiative que tout le monde a saluée, une initiative que tout le monde a soutenue, moi je pense qu'on ne peut pas la laisser tomber de cette manière-là. Petit à petit, on va dans la même direction que les autres. Je pense que le gouvernement doit se ressaisir. S'il faut résilier le contrat avec la RATP, on le dit clairement, s'il faut nommer des mandataires congolais et qu'on trouve qu'ils sont compétents, on le fait en toute transparence et je pense que tout le monde gagnerait.
Alors, vous évoquez le problème du prix, vous souhaitez qu'il soit pratiqué le prix réel, le quinoa moyen pourrait-il payer ce prix-là?
Le prix de 500 francs congolais, moi je pense que c'est un prix équitable. C'est un prix qui convient pour les Quinois. C'est un prix à la portée de toutes les bourses. Mais les dessins et sept, ils pratiquent quel prix? Ils sont à 450, à 400. Pourquoi est-ce que Transco ne pratique pas le prix de 500 francs congolais? Pour moi, je trouve que c'est un prix qui convient. Seulement, si le gouvernement veut subventionner Transco, moi je pense que cette subvention peut bien passer. Et le carburant, et ne pas prendre la TVA. Moi, je pense que prélever la TVA, ça asphyxie l'entreprise, ça ne permet pas à ce que l'entreprise puisse faire face aux charges sociales, aux charges des renouvellements d'unités de production, aux charges des renouvellements des consommables. Donc, je pense que le gouvernement ferait œuvre utile, non seulement de subventionner en termes de carburant, mais aussi de se délester de ces 80 francs congolais de TVA.
Blaise Kouseka, vous êtes expert en démocratie économique, vous avez suivi le conseiller Moukouala, et bienvenue Marie Bakoumania, quelle est votre analyse?
Oui, merci. Le problème me semble un peu trop crucial. Et les transports dans tous les pays, c'est un dossier à régler avec beaucoup de compétences, puisque cela va de soi avec la qualité des services à rendre. Les agents dans toutes les entreprises pour faire la production attendue doivent arriver à temps. Et les transports sont souvent organisés par l'État. Il y a des pays en Afrique, par exemple l'Algérie, un citoyen n'est pas autorisé d'avoir un bus de transport. C'est l'État qui assure ça pour essayer de créer un peu un équilibre en fonction avec les dépenses du salaire. Il y a la rubrique transport qui a souvent essayé de menacer d'autres rubriques du genre consommation et épargne pour que les citoyens puissent dépenser effectivement ce qui a été réservé à la circulation. Il faut que l'État prenne en charge, puisque l'État peut baisser les prix si on voit que le moyen d'achat du citoyen n'arrive pas à faire face. Alors, si on n'arrive pas à bien régulariser la situation, les citoyens arrivent à puiser, même dans la consommation, arrivent à puiser dans leurs réserves. Finalement, on va rendre service toute la vie et à la fin de sa vie, tout est parti dans les dépenses. L'entreprise a bénéficié des services, mais vous allez, par exemple, en retraite, vous n'avez pratiquement rien. Et surtout qu'au pays, on arrive à payer à quelqu'un 100 dollars. Si on doit réaliser les coûts de dépenses rien que pour les transports, ça semble déjà insuffisant. Donc, c'est un dossier à gérer avec quand même beaucoup de maturité et de compétences. Bon, par rapport au conflit entre le gouvernement et les gestionnaires partants, Dominique Motion. Bon, Dominique Motion donne ses plaintes par rapport au gouvernement. Il dresse les bilans de la qualité de la coopération entre Transco et le gouvernement.
Mais nous n'avons pas... bilan alarmant.
Oui, un bilan très alarmant, disons. Et nous n'avons pas écouté, finalement, le rapport, disons, le compte rendu du gouvernement en fonction de la qualité de la gestion de M. Dominique Motion. De quoi le gouvernement reproche-t-il les messieurs? Alors qu'à l'écouter, comme dit mon frère... Bienvenue. Donc, il y a déjà la TVA déjà qui handicape. Dès la première année, l'État va déjà mettre 80 francs congolais sur les 500 francs congolais. Et comment l'entreprise peut bien fonctionner alors que on parle déjà au pays de l'amélioration du climat d'affaires? Ça porte essentiellement sur les taxes à donner à l'État. Si l'État lui-même doit encore s'impliquer dans des dividendes autour de ces montants dans une entreprise débutante, alors qu'il y en a qui donnent 200-300, voire plus, sans taxe, l'État pour l'entreprise de pouvoir très bien se positionner financièrement, puisqu'on vient de dépenser, on vient de faire de lourdes dépenses pour faire débuter pour amorcer les activités d'une entreprise. On doit commencer avec des taxes de ce genre et puis ça coince déjà.
Alors, il y a ce problème de décaissement de fonds. On a suivi dans l'entretien de Berry et d'Innocent, la note de Dominique Motion parle, cite par exemple le directeur général intérimaire qui annonce ou qui écrit à la Rawbank pour signifier à cette banque que seule sa signature est valable pour sortir les fonds, alors que du temps de Dominique Motion, il fallait 3 signatures. N'est-ce pas une pratique dangereuse?
Non, c'est très, 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 très dangereux. Et puis, c'est pas normal. Si effectivement on veut travailler pour la transparence et dans la transparence, surtout avec le respect de la dignité de soi-même, en matière de finances, faut jamais prendre le risque d'aller s'engager seul. Donc, il y a quand même des paramètres liés à la bonne gestion pour sécuriser la transparence, pour s'innocenter dans toutes sortes d'accusations autour de la mégestion. C'est mieux que ce soit sécurisé. Et c'est là qu'il faut que toutes les composantes, le gouvernement, le partenaire associé et puis un autre témoin soient obligatoirement présents pendant que vous voulez retirer des fonds pour l'entreprise. Et puis c'est humiliant si jusqu'aujourd'hui au pays, nous sommes déjà des personnes humaines, des citoyens avec une autonomie depuis plus de 50 ans. Si on doit toujours tourner autour des faits sur la mégestion, surtout et tout, et humainement parlant, c'est déjà une difficulté grave.
Mais le directeur général avance comme raison qu'il s'agit d'urgence et de souplesse administrative. D'une autre part, n'a-t-il pas raison?
Non, il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Pourquoi les dirigeants précédents n'avaient pas soulevé les problèmes de souplesse? Quand ce sont les agents responsabilisés dans le décaissement des fonds, ils savent que dans leurs attributions, ils doivent au moment voulu se rendre, je ne sais moi, à la banque pour retirer les fonds. Ça sécurise bien la situation, bien le système. Je ne suis pas pour la monopolisation du secteur financier autour de lever des fonds. Il faut que le mécanisme donne des garanties de transparence et de confiance.
Bienvenue Marie Bakoumania, évoquez le problème du prix. Est-ce que vous pensez que 500 francs, il faut garder ce prix-là à n'importe quel prix?
Les prix en matière sociale n'ont jamais été imaginaires. Il faut réaliser d'abord ce que vous remettez aux citoyens comme revenu et combien vous lui réservez les mois pour se déplacer chaque jour et aller rendre service. Ouais, si vous réalisez que au départ de ce qu'il a comme revenu, il peut dépenser par jour, je ne sais moi, 2000 francs, puisque les 500 francs ici c'est le transport aller, on ne sait pas il va prendre combien de trajets. Alors si on réalise que les citoyens congolais en somme est capable de dépenser, je ne sais moi, admettons 2000 francs congolais, et que 2000 francs congolais fois 30, ça fait combien? Ça fait combien, frère?
60 000.
Ça fait 60 000. Par rapport à ce qu'on lui donne comme revenu, si 60 000 vaut rien que pour les transports et qu'il y aura encore quelque chose pour la consommation, à prendre en compte le nombre d'enfants et puis les deux parents et à mettre de côté aussi l'épargne, puisqu'on ne peut pas rendre service et ne tourner qu'autour de la consommation et transport. Demain, on peut développer une maladie qui peut coûter cher et c'est pas nécessairement l'État qui va prendre en charge. Et puis, on peut aller en retraite. Si l'épargne n'est pas consistante, on ne saura pas demain se prendre en charge alors que l'entreprise ou bien l'État a bénéficié de vos services et vous allez vous en prendre vous-même avec la misère alors que vous avez eu à travailler pendant longtemps.
Et donc, brièvement, il fallait bien réfléchir autour de ce prix.
Oui, il fallait que ça soit objectif et puis tout ça a déjà été statistiquement établi et puis c'est très simple à faire.
Monsieur le conseiller, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bounia en province orientale.
Désiré Bassaki Bonyoro depuis Bounia. À vrai dire, le pourcentage de la réussite de cette société me paraît moindre par rapport à beaucoup de facteurs. Un, la gestion en fonction de la déclaration du directeur sortant, lorsqu'il y a des marchés conclus sans appel d'offres publiques. Deux, les sociales de la population quinoise, c'est-à-dire ces bus parcourent de longues distances pour un petit coût de billet, qui est de 500 francs congolais pour une distance parfois de plus de 10 kilomètres. Cependant, si on augmente le prix du billet pour essayer de donner un équilibre à la société, la population qui n'a pas un pouvoir d'achat conséquent va recourir à ses anciennes pratiques. Trois, l'état des routes de Kinshasa. La société ne saura pas lancer ses bus dans toutes les directions par rapport au mauvais état d'autres routes de la capitale.
Monsieur le conseiller, dès sa naissance, Transco était-elle déjà condamnée à échouer?
Mais j'aimerais ici rassurer nos compatriotes, comme mon frère Désiré à Bounia, qui a un intérêt majeur par rapport à l'avancement, sinon à la réussite de Transco. Mais ici, nous devons d'abord recadrer les choses partout au monde. Partout au monde. Le transport n'a jamais été une activité lucrative. Il n'y a aucun bénéfice pour les transports en commun. Partout au monde. L'État subventionne dans la limite de ses moyens. Même les prix, je suis très flatté parce que mon frère bienvenu, il a tiré l'attention du gouvernement en ce qui concerne la TVA qui est retirée. C'est une préoccupation qui est bien fondée. Et même nous pensons qu'il faut défiscaliser Transco. Et il y a une commission déjà au niveau du ministère qui siège pour voir par quels moyens, avec nos amis de finances qui prélèvent ce genre d'imposition, pour qu'on puisse défiscaliser Transco. Étant entendu que le prix est social, on ne peut pas imposer à Transco la TVA. Ça, on est en train de travailler parce que la gestion a ses règles. Pour que vous puissiez obtenir une décision contraire, il faut toujours ce qu'on appelle la théorie de l'acte contraire. C'est-à-dire, il faut négocier, il faut se mettre autour d'une table, les préoccupations soulevées par vous en ce qui concerne la TVA qui est fondée. Donc voilà, le gouvernement s'y met et le ministre des Transports ne baisse pas ses bras. Il est en train de travailler. Mais je reviens sur la question du mandataire sortant, parce qu'on dit qu'il y a conflit entre lui et le gouvernement.
Et pourquoi ne pas avoir diligenté un audit juste après?
Laissez-moi aller. Parce que vous avez voulu avoir des explications. Mais le temps semble relativement court. Il n'y a pas conflit. J'ai précisé qu'il y a eu un contrat qui a été signé avec une structure qu'on appelle RATP. Le contrat était d'une année. Le contrat touchait à sa fin, en fait. Pour ce qui concerne le mandataire, il avait une année de gestion. Et il devra partir. Mais il y a déjà l'audit. On a diligenté l'audit. Le rapport vous sera soumis. Alors, vous, la presse, vous l'aurez. Alors, donc, le gouvernement est en train d'évaluer les contrats, ou du moins ce qui concerne la prestation de ces mandataires. On évalue.
Alors, monsieur le conseiller, Transco s'est aussi plein récemment à Radio Capi. On a diffusé un reportage de ces hommes en uniforme, les militaires, les policiers qui entrent en grand nombre, 5, 6, voire plus, dans un bus sans payer. Ça constituerait aussi un manque à gagner.
Bon, c'est parmi les problèmes majeurs que nous avons dans nos pays. Les militaires, les policiers, qui ces derniers ne payent pas souvent. La gratuité pour cette couche de population. Bon, c'est un problème réel. Il revient au gouvernement de trouver une solution. Et le gouvernement s'y met. Je ne voudrais pas ici vous dire ce que le gouvernement pense par rapport à cette question. Mais du moins, je me dois de vous rassurer que le gouvernement s'y met. Et le ministre des Transports et Voies de Communication, qui a la direction de ce département, il s'emploie pour ça. Et les jours à venir, on va mettre à votre disposition les décisions qui seront prises par le gouvernement, dirigé de main de maître par le Premier ministre Matata Ponou.
Bienvenue Marie Bakoumania, nous prenons cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Maître Patrick Assema à Kinshasa, je me demande pourquoi le DG sortant a-t-il entendu son départ du Transco pour faire pareille dénonciation. De toute évidence, cela n'est que la conséquence logique de la mégestion des établissements, sociétés et services publics dans notre pays. Pour pallier à cette situation, au-delà de l'impunité en général qu'on doit bannir et du contrôle parlementaire qui doit se faire régulièrement, il faut également que le contrôle technique par la Cour des comptes devienne effectif en fait de condamner sévèrement ceux qui engagent les recettes et les dépenses publiques au sein du Transco.
Réaction.
Il a tout à fait raison. Mon interrogation porte plus sur le fait que le monsieur Moncio puisse dresser un rapport sur la gestion de celui qui est son successeur. Ça me semble quelque peu
invraisemblable.
Oui, invraisemblable, parce que je suppose que si le contrat est arrivé à terme le 30, l'autre doit avoir pris les choses en main le premier. Je ne vois pas comment il peut déjà faire le rapport sur la gestion de celui qui a succédé. Et là, ça dérange un tout petit peu la compréhension. Et là aussi, je me pose la question, pourquoi l'audit attend que M. Motion soit déjà parti, parce qu'il a fini son travail, et c'est seulement maintenant. On pouvait déjà, à mi-parcours, avoir des tendances. Avant qu'il, 2 mois, 3 mois avant qu'il ne parte, on pouvait avoir des tendances et éventuellement sanctionner. Parce que ce qui paraît actuellement, c'est la difficulté de voir, maintenant, Motion est parti, on a nommé un ADG qui n'entre pas, un gestionnaire qui n'entre pas dans le cadre du contrat qui lie le gouvernement avec RATP, c'est-à-dire qu'on a une nouvelle gestion. Donc, la Transco, en une année ou une année et demie d'existence, aura connu 3 gestions. Je pense que si on veut faire quelque chose de durable, c'est pas de cette manière-là. Le gouvernement doit revoir sa stratégie. L'idée de mettre en place une entreprise de transport telle que Transco, c'est une idée louable, une initiative louable que tous les Congolais soutiennent, moi le premier, parce que moi je prends les bus Transco. Mais il faut y mettre aussi de la manière et les compétences. Le gouvernement n'en manque pas. Et par exemple, au transport et communication, il n'y a que des compétences. Moi, je pense qu'ils peuvent revoir leur copie, recadrer ce qui peut l'être. Et au lieu d'avoir des contrats d'une année, ben, il faut avoir des contrats à des durées quelque peu qui permettraient à ce qu'on puisse voir un tout petit peu clair, qu'on puisse avoir des perspectives. On doit se lancer à moyen terme plutôt que d'être dans le court terme, dans les urgences.
Serait-il une erreur de prétendre à ce jour que Transco est à la porte de la faillite?
Bon, moi, je ne voudrais pas y croire. Il n'y a que 16 bus qui sont en panne. Donc, il y a encore un nombre important de bus qui peut, les parcs automobiles seraient encore intacts. Donc, il y a encore moyen de sauver ce qui peut l'être. Et surtout que c'est la majorité des outils de production qui est encore en sécurité, qui est encore en état de produire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est de recadrer les règles du jeu, hein, de recadrer les règles de gestion. Le gouvernement, en nommant un mandataire unique, fait fausse route. Il faut le reconnaître. Il n'y a pas de mal à reconnaître que c'était une erreur de parcours. Hein, et peut-être s'il ne faut pas revenir avec RATP, l'expérience n'aurait pas été concluante. Ça, c'est l'audit qui va le dire. Hein, et au gouvernement de tirer les leçons qui s'imposent. Mais moi, je souhaiterais que le gouvernement mette en place une gestion claire, transparente, à moyen terme, pour que nous puissions avoir la possibilité d'évaluer par exercice successif. Hein, mais qu'on ait une vision à plus ou moins 3, 4, voire 5 ans, hein, et que les évaluations successives permettraient de recadrer ce qui peut l'être, permettraient de pouvoir se dire que l'entreprise là, elle aura au moins une vie de 10 années, de 20 années.
Blaise Kouseka, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient du Bandundu.
Godefroy Dingeleji, j'appelle des Kikwit. Notre gouvernement a toujours de bonnes idées, mais celles-ci ne donnent naissance qu'à des avortons. Il est très beau de doter les pays d'une compagnie de transport. Néanmoins, il convient aussi de faire preuve de valeurs démocratiques pour la marche de cette compagnie. Déjà, les prémices étaient faussées quant à la sélection des agents et personnels administratifs et financiers des Transco. Des frères et cousins, sans aucune condition, ont occupé des postes alléchants. C'est pourquoi il faudra que le Premier ministre soit très regardant et que sanctionne tous les récalcitrants pour que le pays soit doté réellement d'une compagnie de transport digne de ce géant d'Afrique.
Blaise Kouseka.
Oui, je félicite notre cher Dilengi pour la situation qu'il déplore. Bon, vraiment, je n'ai pas de preuves, mais avoir la mentalité qui nous habite jusque-là en tant que Congolais, les faits, logiquement, est vrai.
Comprendre des cousins, des cousines,
engagement de membres de famille, de proches et consorts qui n'ont pas de qualités requises. Et cela aussi peut aussi se justifier par, disons, les faillites ou bien les pannes des bus. Est-ce que ceux qui ont conduit ces bus, quand même des bus tout neufs comme ça, avec un amortissement ou bien une utilisation d'une année seulement, peut déjà être déclaré en panne jusqu'à ne pas fonctionner? C'est que les pannes sont graves, c'est que l'usager n'a pas été, expert, mais c'est une mentalité qui n'est pas administrative, qui n'est pas professionnelle.
Alors, Blaise Kouseka, que faut-il pour que Transco ne connaisse, ne tombe pas dans la situation de Sotras, de l'OTCZ et bien d'autres compagnies de transport qui sont venues avant?
La plus grande difficulté que notre pays a toujours connue à plusieurs niveaux, c'est la sécurisation de la transparence ou bien de la bonne gouvernance. On est un peuple jusque-là qui éprouve beaucoup de difficultés dans la qualité de gestion, mais on ne prend pas de dispositions nous connaissant pour bien se gérer afin d'atteindre les résultats envisagés. Il faut mettre en place un mécanisme de transparence dans la gestion d'une entreprise. Comment se sécuriser pour que les fonds soient effectivement disponibles et qu'en cas d'une panne, par exemple, vous puissiez avoir des ressources voulues en vue de réparer. C'est pas normal pour qu'une entreprise qui débute, qui a encore neuvement ses fonds, bon, puisse déjà déclasser des engins par manque de moyens de réparation et consorts. Donc, on devrait vraiment mettre en place un mécanisme efficace de transparence dans la gestion de recettes et puis vraiment bien s'y mettre pour que la mégestion ou bien le détournement ne puisse pas être au rendez-vous.
Alors, bienvenue Marie Bakoumania, parlait déjà de 3 gestionnaires en une année. L'État congolais a-t-il une vision claire de ce qu'il voudrait faire de son secteur de transport?
Bon, à ma connaissance, tous ceux qui sont passés, puisqu'ils ont épousé leur mandat. Surtout Monsieur Motion, il a fini son mandat et il est parti. Alors, comment le gouvernement a-t-il jugé sa prestation? Comment a-t-il dirigé l'entreprise? Je peux déjà dire que administrativement, la gouvernance a été bonne. Sinon, il n'allait pas épouser son mandat. Et surtout que ce rapport traîne. Disons. Et puis c'est pas, je ne sais pas la nature de partenariat. C'est vrai qu'il y a des compatriotes, des gens qui rendent des services clés dans des pays étrangers. Je ne sais pas bien la nature, mais c'est pas du tout aussi envisageable avoir des étrangers qui viennent vous rendre service puisque vous n'êtes pas à mesure de bien rendre les mêmes services. D'où si par exemple les services rendus a été de bonne qualité. Bon, pourquoi pas dédoubler les mandats et consorts. Et si on veut travailler à l'interne, nous connaissant, il faut vraiment s'engager pour que les résultats attendus soient au rendez-vous.
Monsieur le conseiller, il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission. Pouvez-vous rassurer la population congolaise, quinoise particulièrement, que Transco va continuer à exister?
Là, je voudrais rassurer sincèrement mes compatriotes qui sont mes frères et sœurs par rapport à l'avenir de Transco. Parce que c'est une structure créée avec les fonds des Congolais. C'est l'argent des contribuables congolais que nous sommes.
Et qu'elle est très loin de la faillite.
Non, très loin de la faillite. Parce que j'ai suivi un compatriote qui a vraiment fait une analyse qui semblait être objective pour moi. Pourquoi a-t-il attendu son départ pour dresser ce bilan? Pourquoi a-t-il attendu? Moi, je pense que c'est un comportement de quelqu'un qui part, qui se dit, il part peut-être avec regret. Il souhaiterait peut-être que le contrat soit quand même reconduit.
En un mot, il est de mauvaise foi.
Moi, je pense. Et vous parlez du DGA qui est en fonction. Il a été nommé conformément au statut créant Transco, qui disait en l'absence du DG, le DGA assure l'intérim. Il assure l'intérim. Voilà, ça c'est clair. Donc, on n'a pas enfreint la loi. Tout reste dans le cadre de notre contrat et du statut créant Transco.
En guise de conclusion?
En guise de conclusion, tous nos frères et sœurs doivent avoir le cœur net et calme. Parce que Transco, jusque-là, Transco, le gouvernement tient. Et Transco tiendra. Et dans les jours à venir, le gouvernement mettra aussi Transco dans d'autres provinces. Donc, point n'est besoin de nous agiter, parce que vous-même, vous avez dit qu'on peut prendre des compatriotes qui sont aussi compétents.
Merci. Bienvenue, Marie Bakoumania. Quel conseil donner au gouvernement, à l'État, pour améliorer la gestion de Transco?
Moi, je crois que le gouvernement doit tenir sa vision. Il a une vision sur ce secteur, un secteur stratégique, éminemment social. Il doit tenir sa vision. S'il estime, si le gouvernement avait estimé au départ que l'appui des RATP était nécessaire, c'est quelque part, le gouvernement s'était dit, il y aurait un déficit par rapport à la gestion dans le secteur. Et si la gestion RATP a porté des fruits, il n'est pas indiqué de se débarrasser d'une équipe qui gagne. Mais si la gestion RATP n'a pas porté de fruits, on le dit, ont-ils des conséquences de manière transparente, si on veut changer de gestionnaire, on tire les conséquences de manière transparente, comme ça, on n'aurait pas toutes ces suspicions, toutes ces inquiétudes que nous exprimons, parce que les choses se sont faites de telle manière que on se pose la question, que devient le contrat RATP, maintenant que ce mandataire est parti, est-ce que le contrat RATP va persister, est-ce que bientôt là, on ne va pas connaître le sort de Sotras et autres OTCZ, c'est justement ces inquiétudes-là. Le gouvernement, la carte qui gagne, c'est la carte de la transparence. Et le gouvernement, il a fait de la transparence son choix de bataille. Il peut continuer et faire mieux.
Blaise Kouseka, les problèmes des militaires et des policiers qui entrent dans ces bus, comment peut-on le résoudre
pour le résoudre, comme je l'ai dit, il faut réaliser ce que l'État réserve comme rémunération aux policiers et autres. Et nécessairement, l'État doit s'acquitter de ses prérogatives financières par rapport à ses engagés et que ses engagés s'engagent en responsable, en circulation et consort. C'est pas bon que cela puisse peser sur les autres. Mais pour conclure, puisque l'occasion me semble vraiment importante, je félicite M. Richard et bienvenue de tout ce qu'ils ont dit. Mais je voulais profiter de l'occasion pour parler un peu de la circulation au pays. C'est pas normal qu'un pays comme le Congo, nous puissions avoir voir, sans vision, on ne sent pas l'engagement du gouvernement dans la formation des ingénieurs en matière, par exemple, de trains de modernes ou bien de trams ou bien la circulation les noms m'échappent. Donc, nous devons avoir.
Spécialistes, en un mot.
Nous devons déjà, comme la ville, cette ville ici n'est pas la ville moderne, vous voyez, on doit déjà planifier des voies souterraines
de
circulation, puisqu'on est très peuplé là.
Merci, c'est la fin de cette émission. Restez branchés sur la radio de la paix. Au revoir.